69,64 sur le marché de l'or à Londres. L'once de métal fin cote 416,50 $. Quant au CAC 40, il progresse de 0,38% à 3943 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Le tour du Vendée Globe en 87 jours. Question ce soir en direct des Sables d'Olonne à Vincent Rioux et Jean Le Cam avec Denis Auro et Pierre-Louis Castelli. La mer, la voile, la course au large, l'univers de ces merveilleux fous flottant sur leur drôle de machine. Pour nous joindre, 01 45 24 7000 dès 17h ou franceinter.com.
Le téléphone sonne, Alain Bédoué, ce soir à 19h20.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03 comme promis. On retrouve Patrice Gélinet pour 2 millions d'histoires.
Bonjour, aujourd'hui un des soldats les plus brillants de la Révolution et de l'Empire, le maréchal Masséna. Masséna était un bon soldat, mais entièrement adonné à l'amour de l'argent. Il n'y a que cela qui les fait marcher, même sous mes yeux. Napoléon. D'histoire. Moins de deux siècles après sa mort, il ne reste de Masséna que le nom d'un boulevard parisien et d'une place dans sa ville natale de Nice. Et pourtant, celui qu'on appelait l'enfant chéri de la victoire fut un des plus brillants généraux de son temps, suffisamment en tout cas pour faire de l'ombre à Bonaparte, qui n'a jamais aimé ce soldat hors du commun, auquel il reprochait aussi de profiter de ses victoires pour accumuler une immense fortune. Très attaché à la République à laquelle il devait sa notoriété, Masséna en 1804 s'était opposé à la proclamation de l'Empire. Mais Napoléon savait calmer la grogne et les ambitions de ses meilleurs soldats en les couvrant de titres. Et c'est ainsi que Masséna, qui avait débuté comme mousse sur le pont d'un bateau, termina sa vie avec un bâton de maréchal et un titre de prince accordé par l'empereur à ceux qui s'étaient distingués sur le champ de bataille de Wagram.
Je ne trouve plus de mots qui me semblent assez grands, assez justes, assez nobles, pour qualifier ce soir votre courage à tous. J'en ai cherché pendant des heures, et je n'ai trouvé que des noms de villages. Ekmoul, Essring, Wagram, Danzig. Je désire vous les offrir. Masséna, je te fais prince d'Essring. Lefebvre, duc de Danzig. Berthier, prince de Wagram. Kellermann, duc de Valmy. MacDonald, duc de Tarente. D'avoue, prince d'Ekmoul. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Si quelqu'un demandait un jour comment va le prince d'Essling, on répondrait que Masséna se porte bien.
Frédéric Hulot, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'on a oublié un peu les titres ronflants que Napoléon distribuait à ses maréchaux et que l'on se souvient plutôt de leur nom, et parmi eux du nom de Masséna, auquel vous venez de consacrer une biographie chez Pygmalion. Et Masséna qui a vraiment un parcours tout à fait extraordinaire, quand on pense qu'il a été maréchal de France, pair de France, même sous la Restauration, alors que d'abord, ses premières originalités, il est né italien, car Nice, quand il y est né en 1753, était une ville italienne.
Parfaitement. À ce moment-là, Nice faisait partie d'un comté qui appartenait au roi de Sardaigne, donc Masséna n'était pas français. Et sa famille non plus, d'ailleurs.
Alors, autre chose tout à fait extraordinaire dans ce parcours, c'est que cet homme qui a donc fini maréchal, prince, etc., vient et d'origine roturière et d'assez modeste à Nice. Son père, je crois, était commerçant. Et une carrière comme celle-là aurait été impensable sous l'ancien régime un soldat qui n'était pas noble n'aurait jamais pu dépasser le grade d'adjudant.
Absolument. Une loi du maréchal de Ségur des années 1780 avait interdit aux roturiers de devenir officiers puisqu'il fallait les célèbres quatre quartiers de noblesse pour pouvoir être au moins sous-lieutenant.
Alors, justement, il commence par être d'abord à travailler un peu dans le commerce de son père, dans une savonnerie, puis part à l'aventure comme mousse dans un bateau. Je crois même qu'il a atteint les côtes américaines, je crois.
Il a d'abord fait du cabotage, puis il a fait un voyage au long cours qui l'a emmené jusqu'en Guyane. Mais au retour, il en avait assez. Il a mis, comme on dit, sac à terre et il s'est engagé dans l'armée parce qu'il a retrouvé son oncle qui servait dans un régiment qui s'appelait d'ailleurs Royal Italien.
Il entre dans l'armée où il va mettre, je crois, 14 ans à devenir adjudant.
Mais pendant son passage à l'armée, il va se cultiver, si j'ose dire, c'est-à-dire que son oncle va le forcer à apprendre à lire, à écrire, à compter, à tenir des livres, à lire des cartes. Donc, autrement dit, toute la base de son éducation militaire sera due à cette période pendant laquelle il passera de simple soldat à adjudant.
Mais alors, déçu de ne pas avoir d'avancement, d'aller plus haut, il quitte l'armée. En quelle année ?
En 1789. Hein, c'est assez étonnant.
Mois après le début de la Révolution, et puis, évidemment, il rempile. Et là, en 2 ans, il passe du grade de capitaine à celui de général de division. Hein, ce que l'ancien régime n'avait pas pu faire, lui, il le fait carrément en 2 ans.
Mais il le fait pendant la guerre. Donc, ouais. Mais comme tous les hommes qui avaient une espèce de science innée, il est poussé en avant par les événements et par ses supérieurs.
Et les événements, Frédéric Hulot, c'est d'abord le premier auquel il se distingue vraiment le plus important. Il est général de division justement à ce moment-là, ou général en tout cas. Il est à Toulon et là, c'est la rencontre avec
un capitaine d'artillerie qui s'appelle Bonaparte, dont pratiquement personne n'a jamais entendu parler. Alors que lui, déjà Masséna, fait partie des officiers dirigeants de l'opération.
Bonaparte qui a 12 ans de moins que lui.
Oui.
Et qui est sous ses ordres, en fait.
Et qui est sous ses ordres, qui sera d'ailleurs général à la fin du siège de Toulon. Et lui, à ce moment-là, sera nommé général de division parce qu'il s'est distingué en prenant un des forts qui ceinturait la ville de Toulon. Là, c'est pas une question de science militaire, mais c'est par bravoure. Il se met à la tête d'une colonne et puis en avant, il se précipite dans le fort et il l'enlève.
Alors à Toulon, Bonaparte est sous les ordres de Masséna. 3 ans plus tard, ce sera exactement la situation inverse, puisque c'est Bonaparte qui va être nommé commandant en chef en Italie et qu'il va partir en 1796 conquérir vraiment des titres et la gloire dans de grandes
batailles. Et les richesses.
Et des richesses. Mais on y reviendra justement.
Gloire et richesse.
Ah oui, c'est ça. C'est vraiment une invitation au pillage. Hein.
Ah, tout à fait.
En tout cas, il part, Bonaparte, avec ses généraux, il part en Italie et avec lui, il va se couvrir de gloire à Lodi, à Rivoli et bien entendu au pont d'Arcole.
Il faut s'emparer de ce pont. Il est impossible de contourner.
Les canons, il est sous leur feu. On va se faire massacrer.
Sauf si on passe au pas de charge. On rassemble des barques, des poutres, des planches de bois, tout ce qu'on pourra trouver pour jeter un autre point un peu plus loin. Sitôt qu'il sera achevé, Augereau passera sur l'autre rive, prendra l'ennemi à revers et le poussera sur Masséna, qui va nous tailler tout ça en pièces.
C'était donc, on l'a entendu tout à l'heure, le passage du pont d'Arcole. J'étais très étonné, Frédéric Hulot, en vous lisant, de constater, d'apprendre plutôt que Bonaparte traversant le pont d'Arcole, c'est une légende.
C'est une légende. Il voulait prendre la tête des colonnes qui devaient passer le pont d'Arcole, et puis il s'est un peu trompé en chemin. Son cheval s'est enlisé, se fourrait dans un marais. Tous ses officiers, y compris son frère, ont dû venir à son secours pour le sortir de là. Et ce n'est pas lui du tout, finalement, qui a franchi le pont d'Arcole, c'est Augereau.
Oui.
Bon, mais les légendes dans la vie dure.
Et la ville d'Arcole a été prise par Masséna.
Qui arrivait sur l'autre rive du fleuve.
Et qui a joué un rôle énorme à Arcole. En fait, dans la campagne d'Italie, dont on a retenu quelques noms, Rivoli, Lodi, etc., Masséna a sans doute été le plus brillant des généraux de Bonaparte.
Il a joué un rôle capital parce qu'il commandait l'avant-garde de l'armée française. Et qu'à plusieurs reprises, il a eu effectivement à jouer un rôle prédominant au moment où il y avait des crises, disons. On l'a fait venir pour dégager, pour relever la situation.
Le pont de Lodi, par exemple, c'est lui qui l'a franchi.
Ah, c'est lui qui l'a traversé au pas de charge, sabre en main, et qui est descendu dans la rivière par un trou, suivi de ses soldats pour enlever le pont. Enfin, il a vraiment eu un rôle fort important, je ne dirais pas capital, parce que tout de même, il y avait la stratégie qui était conçue par Bonaparte, mais il a eu un rôle fort important pendant la campagne d'Italie, jusqu'en Autriche d'ailleurs.
Pourtant, c'est Bonaparte qui a tiré, si je puis dire, la couverture à lui. Cela dit, il a quand même reconnu les qualités de Masséna, puisque c'est pendant cette campagne, je crois qu'il l'appelle l'enfant chéri de la victoire.
À la suite de Lodi, oui, il l'appelle l'enfant chéri de la victoire, et les mauvaises langues et les adversaires de Masséna qui n'en manquaient pas, et sachant qu'il s'était déjà rempli les poches, l'ont surnommé l'enfant pourri de la victoire.
Oui, alors justement, parlons-en, parce que l'émission a commencé par cette citation de Napoléon qui disait que Masséna n'aimait que l'argent et éventuellement la guerre. Il l'aimait beaucoup. Et justement, après cette campagne d'Italie qu'il fait auprès ou derrière Napoléon, Bonaparte encore, qui s'appelle encore Bonaparte, lui, il reste en Italie, va aller même à Rome, et là, il va se trouver quand même dans une situation difficile, puisqu'il va se retrouver avec une armée d'occupation de Rome qui se mutine parce qu'elle n'est pas payée et qui accuse justement Masséna de se faire de l'argent sur place. Et cette réputation, elle va lui coller à la peau, mais pendant toute sa carrière, pendant toutes ses campagnes, partout où Masséna est passé, Frédéric Hulot. Est-ce qu'elle était justifiée d'abord ?
Elle l'était plus ou moins, mais enfin elle l'était justifiée. Il a toujours eu un fait pour les petits cadeaux que lui faisaient les municipalités quand il arrivait dans une ville, soi-disant pour l'entretien de l'armée, dont la plus grande partie passait dans sa poche. Ça, c'est indiscutable. Il a fait une très grosse fortune, que sa femme, d'ailleurs, qui était aussi intéressée que lui, parce qu'en plus d'être intéressée, il était plutôt radin, que sa femme gérait admirablement.
Mmh. Mais bon, entre faire un petit peu d'argent et beaucoup, parce que vous le rappelez, il s'est acheté quand même des châteaux en France.
Il a ramassé énormément. D'ailleurs, je dois vous dire que ce qu'ont ramassé les troupes françaises pendant la Révolution dans toute l'Europe a été, au point de vue argent, colossal. Et puis alors, en Italie, ce qui s'est passé pendant la campagne de 96, c'est qu'il y avait une institution spéciale en Italie, c'était les Mont-de-Piété, qui regorgeait d'argent, sur laquelle tous les généraux français ont fait main basse, Masséna comme les autres.
Donc vous avez beau bien aimer Masséna, vous reconnaissez quand même...
Je reconnais que ça n'était pas un homme d'une intégrité totale, ça c'est certain. Hein,
pas plus d'ailleurs que dans un poste. Alors ça c'est vraiment une campagne très importante qu'il a menée, mais dont on parle pas beaucoup en France, parce qu'on l'a oublié, pendant ce temps-là Bonaparte était parti en Égypte, et lui, il se retrouve commandant en chef de l'armée d'Helvétie, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est-à-dire en Suisse. Et là, c'est, dites-vous, la plus grande bataille qu'il ait menée à Zurich, en repoussant deux armées, les armées autrichiennes et les armées russes. Zurich, ça, personne n'a entendu parler. Et c'est à ce moment-là qu'on a appelé Masséna le sauveur de la France. Il faut peut-être rappeler dans quelles circonstances.
Eh bien, le directoire, qui était le gouvernement de la France, avait eu une politique étrangère forte, imprudente, et une coalition, la seconde, s'était nouée contre la France, qui comprenait essentiellement l'Angleterre, bien entendu, plus l'Autriche et la Russie. Et le but de l'opération, c'était d'envahir la France, par le nord, par l'Allemagne, par le sud, par l'Italie. Il s'est trouvé qu'à un moment, les armées russes étaient en Italie, ce qui peut paraître paradoxal, les armées autrichiennes étaient en Allemagne, ce qui était plus normal, et puis comme les armées russes en Italie pillaient énormément, le gouvernement autrichien qui voulait récupérer les provinces italiennes en bon état a eu l'idée de faire passer les Russes en Allemagne et les Autrichiens en Italie, donc faire un switching en passant par la Suisse. Et cette opération qui n'a d'ailleurs pas pu réussir parce qu'il y avait un problème de transmission à l'époque, qui aujourd'hui nous ne connaîtrions pas, ça a été cette raison qui a fait que Masséna en a profité, en a battu une avant que l'autre n'arrive et a battu la seconde avant que la première qui avait déjà été battue ne puisse réagir. Et en faisant cela, il a cassé les reins à la coalition et il a donc sauvé la France.
Oui. Et à ce moment, au moment, il faut le rappeler, où Bonaparte est encore en Égypte, revient en France. Il est revenu après.
Et il
donc,
s'est présenté
c'était vraiment un rival, en fait, pour Bonaparte. Mais
Bonaparte a voulu se présenter parce qu'il avait tout de même laissé en France des gens qui s'occupaient de lui, qui faisaient sa propagande. S'est présenté comme un sauveur, alors qu'il n'y avait plus rien à sauver, c'est ça.
Et puis alors surtout, Masséna, qui, dites-vous, est un ardent républicain, il a fait toute sa carrière, au début de sa carrière, en tout cas sous la République, est outré que Bonaparte veuille la renverser, provoque ce fameux coup d'État du 18 Brumaire. Et alors vous dites que Masséna, qui va ensuite servir sous Napoléon, était prêt à envoyer son armée de Suisse à Paris, pour arrêter Napoléon.
Absolument, pour l'arrêter, même pour le fusiller. Il a écrit à son ami Roger Ducos, sans savoir que Roger Ducos faisait partie de la conspiration de Napoléon, ce qu'on peut appeler ça une conspiration, en lui disant, s'il le faut, je marche sur Paris. Alors l'autre lui a envoyé son frère, restez tranquille, pas d'histoire.
Bonaparte,
il est pas si mal que ça, Bonaparte.
Et il s'est calmé. 4 ans plus tard, d'ailleurs, on va retrouver en 1804, Masséna s'opposant à la proclamation de l'Empire, mais Napoléon saura le faire taire, comme d'autres d'ailleurs, en l'élevant au titre de maréchal.
Article 1er. Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français.
Et pour qu'aucun de nous, devant un tel événement, n'ait seulement l'idée d'exprimer sa surprise, il nous ferma le bec en nous couvrant d'honneurs et de titres pompeux. Puis, ayant rétabli la dignité de maréchal de France, il en créa 18 dans la même journée. Augereau, Masséna, Kellermann, Lefebvre, Ney, Murat, Bernadotte, Lannes, Mortier, Davout.
Et c'était Sacha Guitry annonçant le nom de quelques-uns des 18 généraux de Bonaparte devenus maréchaux de Napoléon au lendemain de la proclamation de l'Empire, et parmi eux Masséna, dont peut-être Napoléon se méfiait le plus. Il le nomme maréchal, plus tard il le fera prince. Mais quels étaient les rapports entre les deux hommes?
Ils n'étaient pas bons. Ils étaient froids, ils se voyaient, ils se faisaient beaucoup d'amitié, ils s'exprimaient en public comme deux vieux amis, mais leur rapport n'était pas bon. Ils ne s'aimaient pas. Il n'y a eu jamais aucun rapport affectif entre eux. En fait, chacun d'entre eux, surtout Napoléon, avait besoin de l'autre et s'en servait au maximum. Mais ça n'était pas vraiment de l'amitié comme par exemple entre Napoléon et Lannes.
Mmh. Vous voulez dire par exemple que à quoi servait Masséna? C'était à gagner des batailles.
À commander des armées.
Et à quoi servait pour Masséna Napoléon? C'est lui donner des titres en fait.
Des titres et de l'argent.
Et de l'argent. Hein. Alors il l'est envoyé quand même. Il le met souvent à l'écart. Hein. Napoléon a souvent mis Masséna à l'écart. Il l'envoie en Italie pour conquérir le royaume de Naples, pour réduire aussi une révolte importante anti-française en Calabre. Si bien d'ailleurs que Masséna n'a finalement pas participé à quelques-unes des très grandes batailles de l'époque, je pense à Austerlitz, à Iéna, etc. Pendant ce temps-là, on l'envoie en Italie. On a l'impression que la plupart des nominations de Masséna, par Napoléon, ça sert un peu à l'écarter.
Oui et non. Si vous voulez, par exemple, il est certain que la conquête du royaume de Naples était un moyen de se débarrasser de lui pendant quelques temps. Mais au moment d'Austerlitz, il commandait l'armée d'Italie qui avait un rôle essentiel, qui était retenir le maximum de forces autrichiennes pour les empêcher de remonter en Allemagne et à s'opposer directement à Napoléon. Donc on le mettait un peu de côté, mais de côté pour jouer des rôles importants.
Et puis Napoléon va le mettre en disgrâce à plusieurs reprises, et puis fait à nouveau appel à lui en 1809, quand la guerre reprend en Allemagne et en Autriche contre une 5e coalition, et là Masséna va se distinguer encore, notamment dans une bataille qui a failli être un désastre d'ailleurs, Frédéric Hulot, c'est la bataille d'Essling.
Toute l'Europe a soupiré en espérant que après Essling, l'Empire s'écroulerait. Ça n'a pas été le cas. Mais Essling, ça a été ni gagné ni perdu, mais ça a été extrêmement tangent que ça tourne au désastre. Parce qu'il y a eu des ponts, je ne rentre pas dans les détails, qui se sont...
Vous en donnez beaucoup dans votre livre. Parfois, on s'y perd, c'est tellement compliqué cette stratégie.
Ah oui. Parce qu'il y a eu des histoires de ponts qui se sont rompus sur le Danube, mais enfin l'armée française se trouvait sur la rive opposée du Danube face à toute l'armée autrichienne, manquait de munitions parce qu'on ne pouvait plus lui en fournir, n'était pas en nombre suffisant, et à ce moment-là, Napoléon est d'ailleurs parti, il a dit à Masséna, je vous laisse le soin de sauver les meubles et de ramener tout ce que vous pouvez de l'armée. Et Masséna, par son rôle, par son charisme, par sa ténacité et par ça. Non pas sa stratégie, mais par sa tactique, a réussi à bloquer l'avance de l'armée autrichienne et a permis à l'armée française de retraverser le bras du Danube et d'aller dans l'île Lobau.
Et à Napoléon, pour la première fois, de quitter un champ de bataille.
Retirez-vous, sire. Si vous restez là, vos grenadiers cesseront de combattre.
On retrouvera l'ennemi à Wagram. Une bonne et brave plaine, Wagram. On retraversera le Danube. Je suis sûr que Wagram sera le nom de la victoire.
L'empereur concentre ses forces dans l'île de Lobau. Puis, ayant fait sauter tous les ponts du Danube, il passe avec Murat à la revue de ses troupes. Et parcourant la ligne, il indique à chacun les buts qu'il faut atteindre. Il conseille Oudino, il parle à MacDonald, il revoit Masséna blessé la veille et qui passe la revue de ses hommes en calèche.
Masséna en calèche à Wagram, je crois que c'est parce qu'il était blessé. Et vous nous rappelez aussi, Frédéric, une chose étonnante, c'est que cet homme qui a vraiment mené un grand nombre de batailles, qui a donné du sien, qui n'avait pas peur, n'a été blessé qu'une seule fois, c'était à Wagram. Et encore, c'était même pas une blessure.
C'était même pas au combat. C'est son cheval qui a mis le pied dans un trou de lapin et qui s'est abattu. Ce qui fait qu'il a eu, il n'a pas eu la jambe cassée, mais il a eu les muscles déchirés. Il pouvait plus monter à cheval. Napoléon voulait le renvoyer à Vienne. Il a dit pas du tout. Je vais faire comme le maréchal de Saxe à Fontenoy. Je me baladerai dans une calèche. Et c'est dans sa calèche qu'il a commandé son corps d'armée. Et il a même été agressé par des hussards autrichiens. Puisque l'un d'entre eux, un officier, s'est agrippé à la calèche et au bras du maréchal pour essayer de le faire basculer et que Masséna, d'un coup de pistolet, lui a cassé la tête.
Il avait un courage quand même absolument insensé, notamment à Wagram. Hein. À Wagram, il a joué un rôle essentiel.
Et il a encore été le pivot de toute la manœuvre napoléonienne.
Là encore, Napoléon, au fond, s'est attribué une victoire qui est en grande partie due à ses soldats. Il n'y avait pas que Masséna, mais Masséna a joué un rôle.
Non, mais toutes les, ce qu'on a appelé les vieilles bandes, c'est-à-dire les soldats issus de la Révolution, ont joué un rôle capital, tant qu'il y en a eu, dans les campagnes napoléoniennes. C'est indiscutable. C'était des hommes qui avaient fait la guerre, qui avaient un courage énorme, une résistance, une endurance, qui étaient un petit peu pillards sur les bords, oui, je le reconnais, mais qui avaient une valeur militaire que nulle autre armée n'avait en Europe.
Alors Frédéric Hulot, après cette bataille de 1809, voilà qu'on va retrouver Masséna commandant l'armée française au Portugal.
Exact.
Ça c'est en 1810. Que faisait l'armée française, une armée française importante, hein, au Portugal? C'était en fait une conséquence de la guerre que la France menait aussi en Espagne.
C'était une conséquence de l'invasion de l'Espagne, de la prise du trône d'Espagne au détriment de la famille royale et l'installation de Joseph. Donc l'Espagne était complètement révoltée. Et les Anglais en avaient profité pour jeter une armée au Portugal et à Lisbonne comme base. Et l'idée de Napoléon, c'était de rejeter cette armée à la mer.
Une armée, je vous coupe, qui n'est pas commandée par n'importe qui, parce que c'est quelqu'un qui va battre, qui va gagner, qui va remporter la bataille de Waterloo. C'est Wellington.
C'est Lord Wellington. Il était déjà Lord Wellington à ce moment-là, qui commandait l'armée anglaise, qui n'était pas, je ne voudrais pas avoir l'air de trop le critiquer, qui n'était pas un très grand tacticien, qui n'était pas un très grand stratège, qui ne faisait pas des grands mouvements, des grandes manœuvres comme Napoléon, mais qui se fixait sur un terrain défensif de son choix, particulièrement difficile à aborder, et qui savait utiliser sa force, c'est-à-dire la puissance de feu de l'armée anglaise.
Et il n'en bougeait plus.
Il attendait qu'on l'attaque.
Masséna ne parviendra pas à s'emparer de Lisbonne, à un moment donné, et puis il va être obligé de se replier, finalement. Là, on est en 1811. Napoléon va lui reprocher d'avoir quitté comme ça le Portugal. Il lui confie un commandement, alors là, c'est pas terrible, hein, le commandement de la 8e division militaire à Marseille. Et c'est là que Masséna va apprendre l'abdication de l'empereur. Il ne va pas participer, bien
sûr.
Non,
il ne participera absolument pas à la campagne de France, à la campagne de 1813 en Allemagne, avant. Oui. Il sera à Marseille. Il est d'ailleurs diminué au point de vue santé à ce moment-là. Mais il joue un rôle important à Marseille parce qu'il y avait énormément de conspiration à ce moment-là dans le sud. Et il est chargé de maintenir l'ordre.
Mais surtout, lorsqu'il apprend l'abdication de Napoléon, il offre ses services à Louis XVIII.
Sans hésiter.
C'était un sacré opportuniste quand même.
Ben, vous savez qu'il y a quelqu'un qui, vers cette époque-là, a composé un dictionnaire des girouettes. C'est-à-dire qu'on a donné aux grands personnages de l'Empire, les militaires comme les civils, un certain nombre de girouettes selon le nombre de fois où vous avez retourné leur veste. Et Masséna a eu droit, je crois, à 2 ou 3 girouettes.
Oui, parce que bon, il sera allié à Louis XVIII.
Sans hésiter, comme pratiquement tous les autres maréchaux.
Qui va le faire pair de France, d'ailleurs. Et on se rend compte, à ce moment-là, on est en 1814, on se rend compte que Masséna ne peut pas être pair de France puisqu'il n'est pas français.
Parce qu'on a rendu Nice à l'Italie. Alors, on a été obligé de lui donner des lettres de grande naturalisation pour le faire pair de France, et Masséna n'a pas tellement apprécié ce genre d'histoire.
Alors, cela dit, Napoléon revient de l'île d'Elbe.
Oui.
Bon, Masséna met du temps, mais enfin, bon, il dit très bien, disons qu'il se réconcilie avec Napoléon, et puis Napoléon repart, cette fois-ci définitivement, après Waterloo, repart à Sainte-Hélène, et Masséna se rapproche à nouveau de Louis XVIII. Là, franchement, on commence à douter de ses convictions. Je crois que les royalistes en voulaient beaucoup à Masséna, en fait.
Ils en ont voulu à tous les maréchaux qui s'étaient ralliés aux 100 jours. Il y a eu une déferlante de royalisme, c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs la terreur blanche, pendant laquelle tout ce qui avait de près ou de loin touché Napoléon pendant les 100 jours était suspect.
Disons. Ney a été fusillé, il faut le rappeler. Alors, Masséna, lui, va survivre, si je puis dire. Il va mourir peu de temps après, en 1817, de tuberculose.
Il était tuberculeux depuis des années.
Et il y a un problème de bâton de maréchal. On n'arrivait plus à retrouver son bâton de maréchal.
Non, c'est pas qu'on n'arrivait plus, mais Louis XVIII devait renvoyer à chacun de ses maréchaux un bâton fleur-de-lycée, alors que le bâton impérial portait des aigles. Et on n'avait pas renvoyé, après 1815, de bâton fleur-de-lycée à Masséna. Et quand il est mort, son gendre, le général, qui a plus tard été maréchal, Rey, a écrit au ministre de la guerre en disant « Si vous ne m'envoyez pas son bâton fleur-de-lycée, moi, sur le cercueil, je mets le bâton avec les aigles. » Affolement général, le ministre de la guerre se précipite chez Louis XVIII. Dans les 24 heures, le bâton fleur-de-lycée est arrivé chez Masséna.
Enfin, chez Masséna, ou plutôt... Il est enterré au Père-Lachaise, sur sa tombe. Il est enterré au Père-Lachaise. Qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui? Parce que, bon, c'est vrai que tout le monde se demande. À Paris, on voit un boulevard Masséna. On se demande qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là. À Nice, en revanche, il y a une place, Masséna, un musée, Masséna.
Il y a une place, un musée et une statue.
Oui.
Et la statue, d'ailleurs, qui se trouvait sur la place Masséna à l'origine, a été déplacé pour des raisons de facilité de circulation et mise, ce qui est assez amusant et même touchant en un sens, dans un square qui s'appelle le square du maréchal Leclerc. Donc, autrement dit, on a fait une espèce de jonction entre ces deux grands soldats et c'est assez sympathique.
Merci Frédéric Hulot. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de Masséna, une biographie qui vient de paraître aux éditions Pygmalion. Vous êtes également l'auteur de nombreuses biographies de maréchaux d'Empire, dont la dernière, celle du maréchal Soult, également publiée chez Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Napoléon de Sacha Guitry, disponible en DVD chez René Château Vidéo, et Napoléon, un téléfilm d'Yves Simonneau avec Christian Clavier. On l'a entendu dans le rôle de Napoléon, est disponible aussi en DVD chez France 2. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci aux maréchaux Patrick Henry et Max Goyer, Claire Destacan, Claire Tessier et Violaine Vallée, ainsi qu'à notre maréchal d'Empire et réalisatrice Anne Comilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. Lundi, du bon marché de Boussicaut au cybercommerce d'aujourd'hui, une histoire du commerce en France. Mardi, un exploit qui a révolutionné l'aviation, le mur du son. Mercredi, une intrigante sous Henri IV et Louis XIII, la redoutable Leonora Galigai. Jeudi, une histoire des noms de famille. Enfin, vendredi, je recevrai Jack Lang pour sa biographie de Nelson Mandela.